Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour plaisir, toutes les semaines tu trouves ici tout ce que tu cherches. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis. Avec Johan Durand, membre de l'équipe de France de marathon, la légende du Périgord. Salut Johan.
Salut à tous, salut Benoît.
La légende de France aussi.
Ouais, ouais.
Périgord, c'est vraiment ton carter quoi.
En studio aujourd'hui.
En studio,
hein.
En plus,
ouais,
la mèche est
parisien,
là. Quoi.
La mèche est là.
Ouais, ouais, ça fait plaisir. Il est bronzé, il est tout beau. Un grand débriefing au programme cette semaine. On le fait rarement, Johan. Et là, on va se régaler. On va revenir sur les trois marathons majeurs disputés lors des trois dernières semaines. Berlin, Londres et Chicago. Nouveau record du monde établi chez les hommes par un certain Eliud Kipchoge. Record féminin frôlé à Chicago. On aura un invité pour en parler. René Auguin, agent numéro 1 de l'athlétisme en France. On va analyser les résultats ensemble et puis il va nous expliquer sa méthode, comment monter un plateau élite, comment choisir des athlètes. Ça sera passionnant, vous allez le voir. La séance d'ailleurs sera adaptée au thème de l'épisode, comment bien choisir sa course. C'est important, Johan Durand, quand on veut performer, quand on veut se faire plaisir, il faut bien choisir son épreuve. Et puis dans la deuxième partie, on va prendre des nouvelles de la team RMC Running dans l'opération Niskan. Elodie sera avec nous, puis on aura un magnifique bon plan dossard cette semaine. 10 dossards à gagner pour le magnifique trail des Templiers. On sera en direct avec Odile Baudrier, que tu connais bien, qui organise l'événement. Dernier rappel, avant de passer à l'épisode, si vous aimez RMC Running, vous pensez bien à vous abonner sur les différentes plateformes de téléchargement, iTunes, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas également à mettre une note, ça fera plaisir à l'ego de Johan Durand. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running.
C'est la dernière ligne droite pour Eliud Kipchoge qui n'a quasiment plus rien à parcourir. La ferveur, la folie, c'est de la folie sur cette ligne droite. Quel frisson, quel moment d'histoire. Superbe Eliud Kipchoge qui franchit cette ligne d'arrivée. Nouveau record du monde en 2h01 et 8 secondes. Et toujours cette même humilité et ce calme quoi. Le sourire bien sûr d'élever les bras.
It is the 2022 TCS London Marathon.
Avec tout le respect que je dois à une personne royale, sire. Si la reine essaie de vous toucher, je lui bousille sa gueule.
And he's done it in style. Amos Kipruto is the TCS London Marathon champion for 2022.
Dimanche, au marathon de Chicago aux États-Unis, l'Éthiopien Sefutura s'est imposé en 2h, 6 minutes et 12 secondes. Chez les femmes, la Kenyane Ruth Chepngetich a écrasé la concurrence en 2h, 22 minutes et 31 secondes. La Kenyane détient ainsi la quatrième meilleure performance de tous les temps.
Ça va vite ! Ça va trop vite ! Ça va trop vite !
Même pas fatigué ! Et voilà, même pas fatigué.
Même pas.
Un bon choix musical hein, cette fois. Une fois n'est pas coutume de la part de Geoffrey Charpie, notre producteur.
Toujours.
Et on accueille donc quelqu'un que tu connais bien, Johan Durand. René Auguin, agent numéro 1 des stars françaises de l'athlétisme. Salut René.
Salut Benoît, salut à tous.
Bienvenue, on est ravis de t'accueillir.
Je suis content d'être là aussi en studio.
Ah ouais, là on est entre passionnés.
Voilà, alors
là on a une encyclopédie de la course à pied.
De la course à pied et du marathon.
Alors précisez évidemment que Johan, René est ton agent depuis de nombreuses années.
Hein. Depuis 2008. Ça fait un petit moment. Hein.
Déjà. Ouais.
Il était déjà aussi maigre ?
Il a toujours été maigre.
Ouais, bah vaut mieux pour un coureur de demi-fond. On le disait, t'es l'agent de nombreuses stars de l'athlète. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms pour que ceux qui nous écoutent et qui te découvrent puissent se rendre compte ?
Dans les principaux, il y en a tellement que je vais en oublier. Mais déjà, je ne suis pas forcément le numéro un, puisque on est plusieurs agents en France. Après, dans les principaux athlètes, il y a Renaud Lavillenie et Christophe Lemaître, avec Benjamin Soro, mon associé, on suit depuis le début de leur aussi. Carrière. Ouais. Et après, il y a quelques jeunes qui sont arrivés. Dans les hurdleurs, Pascal Martineau-Lagarde, Sacha Zoya, Il y a beaucoup d'athlètes, quoi. Ouais. Nous suivons beaucoup d'athlètes.
Tu vas être un peu occupé en 2024, là, j'ai l'impression.
Non, je serai dans les tribunes voilà. À regarder.
Tu vas pas quitter le stade d'athlètes, quoi.
Parce qu'effectivement, en championnat, à pas regarder le spectacle et les athlètes, il y a.
Le boulot est fait, ouais.
Bon, peut-être un petit détour par la côte de Ville d'Avray, histoire d'eux, hein,
de voir le marathon.
Et puis, voilà, quoi.
Je pense que je resterai au départ et à l'arrivée voilà. Pour le marathon.
T'as raison. Alors, raconte-nous un petit peu ton histoire. Évidemment, tu es passionné d'athlétisme. Depuis tout jeune, je rappelle que tu as une grosse référence sur marathon.
Ah voilà,
2h23.
Je savais pas si tu la connaissais.
Je l'ai
là,
évidemment.
Sinon je l'aurais soufflé.
Là, on a un vrai marathonien. 2h23, ça parle à tous ceux qui nous écoutent. Coureur adolescent et puis rapidement président également d'un club d'athlétisme, hein, René.
Ouais, absolument. J'ai commencé l'athlète après les Jeux de Munich en 72, donc ouais. Très jeune. J'étais dirigeant de club de 76 à 2000 en gros, et puis après, bon, j'étais 100%, on va dire, agent.
Voilà. Et évidemment, nous, l'agent, on a souvent l'image de l'agent en foot. Hein. C'est forcément, quand on aime le sport, l'image qui revient le plus vite. Est-ce que le métier est complètement différent? Est-ce qu'il y a des similitudes? Comment tu vois ça, toi, René, alors?
Non, enfin, je connais pas le milieu du foot, mais je pense que autant le foot c'est un milieu de requins, autant l'athlétisme, bon, c'est pas, il y a pas les sommes d'argent qu'il y a dans le foot, donc c'est, on va dire que c'est, voilà, c'est pas les mêmes enjeux.
Ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu traites, donc tu nous l'as dit à travers ton portefeuille, toutes les disciplines de l'athlé, quoi. Tu t'arrêtes pas au demi-fond, c'est-à-dire que tu fais du saut à la perche, tu fais du 110 mètres haies, on l'a entendu.
Moi, je ne fais rien du tout. Ce sont les.
Oui,
sportifs.
Voilà. Non, mais je veux dire, tu traites
toutes les disciplines. Effectivement, de l'athlétisme, le sprint, le demi-fond, le lancer, les sauts, enfin voilà.
Alors, comment ça se passe? Expliquez-moi. Par exemple, lorsque le jeune Durand, avec sa petite mèche, commence à performer, qui va vers l'autre? Est-ce que c'est Durand qui sollicite René Hauguin ou est-ce que c'est René Hauguin qui téléphone à Durand pour lui dire est-ce que tu as besoin d'aide? Comment ça marche?
Quand c'est fait, je me rappelle que c'est au meeting de Mondeville. Ouais. La difficulté quand t'es jeune, c'est de pouvoir t'inscrire. En fait, le manager en athlétisme, c'est plus un facilitateur d'accès aux courses et de déplacement, de transport, de logistique et tout ça. Au-delà, au
toi,
début,
tu restes concentré sur ta performance.
Voilà,
sportive.
Exactement. Et au début, honnêtement, René, je lui faisais gagner zéro. Hein, ouais. Quand t'es jeune et que t'arrives sur les plateaux.
Donc il fait un pari sur toi.
Exactement, c'est ça. Et quelque part, voilà, en 2008, moi, je venais d'être vice-champion d'Europe Espoir du 1500 mètres et je vais au meeting de Mondeville et j'ai rencontré René et son associé
Benjamin,
et puis voilà Benjamin Soro et puis voilà ça s'est fait assez naturellement, on a discuté et puis voilà après je leur ai dit que oui j'étais intéressé pour qu'ils puissent m'accompagner dans ma démarche parce que voilà j'étais en train de me construire, hein, j'étais en train d'essayer d'avoir une politique d'accès vers le haut niveau donc de me professionnaliser, c'est à ce moment-là où j'ai décidé d'être athlète professionnel en intégrant aussi l'armée et tout ça pour avoir un détachement et il me fallait aussi des gens pour pouvoir me faire rentrer dans les meetings et c'est le rôle
c'est indispensable
c'est indispensable c'est compliqué de pouvoir de disons en tant qu'athlète on n'a pas envie de gérer ça c'est quelque chose
c'est chronophage quoi.
C'est ça prend du temps téléphoner aux organisateurs puis les organisateurs ils travaillent direct avec leur réseau et t'as un mec qui l'appelle il lui dit ouais moi je veux faire ça mais je l'avais pas encore fait parce que quand t'es jeune tu te dis ouais je pense valoir 3,40 au 1500 mais j'ai fait que 3,44 mais prenez-moi enfin t'essayes de négocier tu passes avec René
René dit hop sur la liste,
Durand,
moi, Durand,
il le vaut et c'est bon.
Non, enfin, donc on est ce que je disais, plusieurs agents en France. Donc après, effectivement, c'est beaucoup plus simple pour un organisateur de traiter avec des agents qu'avec des athlètes individuellement.
Bien sûr.
Dans le haut niveau en France, je pense à part Johan Coal, je pense que tous les athlètes de haut niveau français ont un agent, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et on oublie peut-être d'autres, mais je pense pas.
Non, ouais.
Juste préciser que c'est intéressant de te recevoir aussi, déjà pour débriefer les majeurs, c'est ce qu'on va faire dans une seconde, mais parce que c'est toi aussi qui, sur le Marathon de Paris, donc la plus grande course longue de France, t'occupes du plateau élite. C'est toi qui gères tout ça pour l'organisateur ASO, hein, c'est ça René?
Ouais, depuis plus de 20 ans. C'est devenu maintenant, on va dire, une habitude, hein, c'est de gérer le plateau surtout étranger, parce qu'on sait très bien que le marathon est avant tout africain, quoi, même si on a de bons Français, hein, quand même. Faut pas. Là, depuis quelques années, ça commence à courir plus vite chez les Français, quoi. Donc, c'est plutôt intéressant, quoi.
Non, mais c'est cool de savoir comment tu construis un plateau élite, comment tu t'en occupes, comment tu sélectionnes les athlètes, justement, les leviers de discussion, tout ça, ça va être intéressant d'aborder ces sujets avec toi. Mais revenons donc à l'actu. C'est inédit, les gars. On a eu 3 marathons majeurs sur 6 disputés en 3 semaines. Hein, évidemment, on rappelle que normalement, celui de Londres se court en avril. Mais là, avec la crainte du Covid au Royaume-Uni, on s'est dit on va le laisser en octobre. Il reviendra d'ailleurs en avril la saison prochaine en 2023. On a donc eu Berlin le 25 septembre, Londres le 2 octobre et Chicago le week-end dernier, donc le 9. On rappelle que les autres majeurs, il y a eu Tokyo qui a été disputé en février, Boston en avril, je crois, et puis New York, c'est le 6 novembre. Voilà, ça va conclure la saison des marathons majeurs. Démarrons par le premier, Berlin, la terre de record, victoire et nouveau record du monde pour le roi Eliud Kipchoge, 2h01 et 9 secondes, pour ceux qui veulent se rendre compte et qui font de la course à pied, c'est 2,52 au kilo.
42 fois, sans récup.
42
fois. C'est 17,3 au 100 mètres.
Exactement, sans s'arrêter. Et c'est 20,9 km heure, voilà, pendant plus de 2 heures. Quatrième titre pour lui à Berlin. Exceptionnel, évidemment. On s'y préparait un peu, René, quand même, de le voir améliorer son record du monde. On savait qu'il était peut-être dans la forme de sa vie encore.
Bah là, honnêtement, moi, je croyais pas. Parce qu'il
approche. Ah,
non, il va avoir quand même 38 ans. Il était champion du monde du 5000 mètres à Paris en 2003.
Et oui,
il a une longévité extraordinaire, ce qui est assez rare, quand même, surtout chez les Africains qui ont plutôt des carrières assez courtes. Bon, à part des Gebrey Salissier, Paul Tergat ou autres. Mais franchement, de faire ça à 38 ans, je ne le croyais pas capable.
Ouais, et toi qui es manager comme ça d'athlètes et qui t'occupe du plateau élite du Marathon de Paris, tu es peut-être un peu plus dans le secret des dieux, mais comment ça se passe, par exemple, pour un athlète comme Eliud Kipchoge? C'est lui qui dit « je vais à Berlin parce que mon objectif, c'est de, une nouvelle fois, améliorer le record du monde », c'est-à-dire qu'il choisit le parcours le plus favorable et peut-être le plus roulant. Ou est-ce que c'est Berlin qui fait absolument le forcing pour aller le chercher? C'est un peu les deux?
Bah là, en l'occurrence, il a un agent qui s'appelle Jos Hermès, qui est dans le circuit depuis que ça a dû être le premier agent sur le circuit. Et il connaît bien Berlin. Il sait que avec Berlin, il n'aura pas de concurrence, quoi. Donc, il aura des lièvres pour lui seul. Enfin, donc la course est montée pour Kipchoge, quoi.
Tout est fait pour le mettre dans les chaussons, quoi.
C'est ça. Ouais. On avait fait la même chose avec donc le même agent et Bekele quand il a fait son premier marathon à Paris.
À Paris, bien sûr.
Donc la course avait été montée pour lui avec son agent, quoi. Donc c'est vraiment l'agent qui l'oriente sur Berlin.
Ouais. Okay. Si Kipchoge était allé à Londres cette année, il aurait rencontré Bekele et la course aurait été peut-être différente, quoi. C'était un match, on les aurait attendus l'un contre l'autre.
Ouais,
après Londres, et c'est un parcours moins rapide, moins roulant, quand même. Hein, donc, voilà.
Ouais, c'est un peu particulier, forcément. Johan, si on met tout cela en perspective, bon, vous avez eu le marathon des Europes au mois d'août. Imaginons s'il n'avait pas existé ce marathon, si tu avais eu un marathon à choisir en automne, sachant qu'il y avait Eliud à Berlin, c'est pas les mêmes allures évidemment, mais tu aurais choisi Berlin pour le parcours, ou est-ce que tu te serais dit, comme René vient de nous dire, tout est fait pour lui, etc., donc j'ai peut-être pas forcément d'intérêt à moi aussi y aller, quoi?
Non, je pense que je serais allé à Berlin parce que
pour le parcours,
ouais. Après, ouais. Chicago est un excellent parcours, mais le problème c'est que tu tapes 7 ou 8 heures de décalage horaire, donc il y a cette difficulté là qui est à prendre en compte et qu'il n'y a pas à Berlin. Et donc moi j'aurais, surtout sur la densité d'athlètes, à Berlin on remarque que beaucoup de coureurs européens ou japonais courent à Berlin, et ils ne courent pas forcément à Londres. Et sur la densité de mes chronos perso à moi, entre de 8 et de 10, de 11, eh ben il y a plus de groupes, il y a plus de coureurs à Berlin. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 6 ou 7 japonais qui font entre 2,8 et 2,11 au marathon de Berlin cette année-là.
Ouais.
Et à Londres, il y a un gros trou. À Londres, j'ai regardé avec mon chrono de 2,9,21 que je fais à Paris en 2021, je termine 16e. Et à Londres, j'aurais terminé 6e cette année avec ce chrono-là. Donc, c'est pour dire la densité. Il y a du très haut niveau en 2, 3, 2, 4, 2, 5. Mais sur mes chronos, à moi, à titre perso, seconde zone un peu. Deuxième groupe, eh ben Berlin est plus favorable. Ouais. Plus de densité et meilleur parcours.
Juste rappeler que ce jour-là, chez les dames, on a une victoire éthiopienne. Tigist Assefa, 2h15.37, nouveau record de l'épreuve à Berlin. Jamais une femme n'avait couru.
De 15, là, ça galope pas.
Il y a une grosse progression chez les femmes cette année. Une densité absolument extraordinaire.
Et des femmes jeunes,
quoi.
En plus. On le verra avec Londres, mais c'est incroyable la jeunesse des femmes et le renouveau du marathon féminin mondial. C'est vrai que c'est assez bluffant. Expérience perso, René, c'est un de tes préférés, Berlin, sur les majeurs ou pas forcément?
Non, c'est j'aime bien New York aussi parce que ça c'est
New York,
c'est New York quoi.
Voilà,
c'est celui à faire.
C'est le marathon
pour la visite.
Faire, quoi. Et pour revenir à Berlin, tu l'as couru, Johan, déjà à Berlin. Je me souviens, j'étais là-bas.
Eh oui, t'étais encadré déjà, mon vieux. Là, oui, tu fais pas ce que tu veux. T'avais ta nounou René Hauguin qui était là auprès de toi pour te surveiller. On le disait donc la semaine d'après, Londres, marathon prestigieux également, fantastique dans les rues de la capitale anglaise. Alors, même nationalité pour les vainqueurs. Bon, c'est marrant, mais ça prouve la densité chez les Kenyans. C'est complètement dingue. Mais deux vainqueurs inédits en revanche. Pas si jeune, le vainqueur masculin, le Kenyan Amos Kipruto, 30 ans. 2h04 et 39 secondes. Ce qu'on retient peut-être là, René, c'est la troisième place de Bachir Abdi, quand même, le Belge qui est entraîné par Gary Loss, qui est le mari d'ailleurs de Paula Radcliffe, qui fait troisième au championnat du monde et qui confirme que c'est quand même un athlète de très très haut niveau, quoi. Bachir Abdi est chez les Européens peut-être le cador, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, je pense là actuellement c'est le leader européen, quoi. Ouais. Et Amos Kipruto a déjà gagné le semi-marathon de Paris il y a quelques années.
Ah bah voilà. Et René l'avait fait venir, tu vois le pif.
Lanceur de jeunes talents. Mais c'est vrai que le marathon de Paris, à une époque, était réputé pour découvrir des primo-marathoniens avant de pouvoir rentrer dans des gros marathons comme ça, se faire les dents sur le marathon de Paris, c'est ça?
Parce que nous, en tant que Français, on a l'image de Paris prestigieux, le parcours sublime, les monuments, etc. L'athlète de haut niveau réfléchit différemment.
Non, oui, complètement.
Forcément, le parcours est difficile, déjà, sur le marathon de Paris, donc c'est pas forcément là qu'on établit une perf. Et c'est plus, comme le disait Johan, des coureurs en devenir que tu vas chercher chez les Kenyans, chez les...
Des débutants sur marathon, c'était le choix de Bekele qui aurait pu aller à Londres. Qui avait une offre énorme et qui a préféré faire Paris justement pour que la course soit montée pour lui. Et beaucoup d'Africains qui débutent sur marathon pour les agents, Paris est un bon choix, quoi.
Ouais. Et alors après, je suis obligé de te poser la question, mais il y a forcément la question du prize money. Et là évidemment les infos restent confidentielles, mais on imagine que tu gagnes moins en prime quand tu gagnes à Paris que quand tu gagnes sur un majeur. Ça c'est logique.
Encore que Berlin est pas bien payé.
Non, Berlin est un petit prize money, un petit grille de prime par rapport aux autres, mais bon.
Est-ce que tu viens pour autre chose alors?
Pour le parcours. Pour les gens, ils vont vraiment pour le parcours et le chrono.
Oui, absolument. À choix égal, un marathonien préférera un parcours plat, rapide que de venir. On le voit avec les Français qui préfèrent souvent aller soit à Valence, soit à Séville, soit
Plutôt que Paris.
Plutôt que Paris ou Rotterdam parce qu'il y a aussi un billard. Mais bon, ça c'est la chasse un petit peu au chrono et au minima pour les grands championnats.
D'ailleurs, là, on parle beaucoup des coureurs professionnels. On pense aussi aux coureurs amateurs qui voient le marathon comme une récompense, qui choisissent des beaux marathons comme ça pour aller, pourquoi pas, performer et chercher un chrono. C'est un peu le même système, sauf que pour un amateur, aller chercher un dossard sur des marathons comme Londres ou Berlin, c'est pas forcément évident. Tu as des listes d'attente.
Londres, c'est compliqué en tant qu'amateur
Londres,
pour pouvoir rentrer, sauf au courir pour une œuvre caritative ou avoir de la chance.
Voilà.
Mais après, c'est l'ambiance aussi.
On regarde avec toi, René, peut-être.
Ouais. On va donner son numéro à l'antenne. N'hésitez pas. Non, mais après, il y a l'ambiance qui est importante.
Ouais.
Et Berlin, moi, j'ai le souvenir de Berlin d'un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'il me tardait des moments où il n'y avait pas de spectateurs sur le côté pour pouvoir souffler un peu. Et
une ambiance de dingue,
t'en peux plus, t'as l'impression d'être dans l'Alpe d'Huez tout le long. Et quand t'es sur marathon, des fois t'as envie de souffler, d'être un peu t'apaiser, d'être un peu plus zen. Et sur des marathons comme ça où ça crie tout le temps, c'est dur. Hein.
Alors personnellement, moi j'étais à Londres, René,
et pareil, belle ambiance.
Ambiance de fou, du début à la fin, c'était fantastique. Météo parfaite d'ailleurs ce jour-là. Et juste rappeler, oui, parce que c'est important, que chez les dames, on a eu un exploit, tu disais, du renouveau. Du marathon féminin, victoire de Yalemzerf Yehualo, c'est ça je crois, l'Éthiopienne, 23 ans, 2h17, alors qu'elle a chuté à mi-parcours. Donc c'est dire la performance de cette jeune femme. 23 ans, René, là ça prouve le niveau qu'elle peut atteindre d'ici quelques années.
Ouais, mais je pense qu'on se rapproche des 2h12 pour les femmes. Hein. Quand on voit que Ruth Jepkidish, là, qui gagne Chicago passe en moins d'une 6 au semi-marathon, voilà, c'est... voilà, ça en dit long sur le potentiel de ces femmes, quoi, de ces jeunes femmes.
En tant que supporter français, on attendait beaucoup de ton pote Johan Koval, qu'on avait reçu il y a quelques mois dans RMC Running, qui préparait son premier marathon, hein, lui qui monte sur la distance en vue de 2024, et qui malheureusement a explosé, hein, t'as pu en parler longuement avec lui, Johan, mais il était bien parti, il était sur une bonne cadence, et finalement il termine en 2h27.59. Il a voulu absolument aller au bout pour voir ce que ça faisait, que découvrir la distance du marathon, ça te fait rire, parce que lui-même a dit j'avais jamais autant souffert dans ma carrière, quoi. C'est, il a découvert un truc de dingue, quoi.
Ouais. Et ça m'étonne pas, hein, parce que là Johan explose assez tôt, hein. Il explose au 25e, ce qui est tôt sur marathon, parce qu'il reste 17 km, on a fait à peine plus de la moitié. Et point de côté, difficulté, obligé de mal au ventre, obligé de s'arrêter, marcher, repartir, impossible de repartir. Donc ça a été un long chemin de croix. Comme c'est son premier, il a voulu finir absolument. Donc bravo à lui.
En même temps, on n'a pas vraiment le choix à Londres, parce qu'il faut quand même rejoindre l'arrivée, quoi qu'il arrive.
Ouais,
donc, même si on a envie d'abandonner,
bah, on quand t'as passé Tower Bridge, t'es pas près de Buckingham Palace. T'as l'impression de. Ouais, et puis en plus, les transports sont blindés, donc là, t'es obligé de finir à pied, quoi.
Ouais. C'est ça. Même en marchant, on finit à Londres, quoi qu'il arrive, on peut pas abandonner, quoi.
Quand on est manager comme ça, René, j'ai deux questions pour toi. Déjà, quand on a un athlète qui est engagé et qu'on le voit en souffrance comme ça, comment on le vit soi-même de l'intérieur? Est-ce que c'est une souffrance également personnelle? Et puis ensuite, j'aimerais t'interroger sur tes liens avec la fédération, justement, pour tout mettre en place vis-à-vis des athlètes tricolores. Mais comment tu le vis quand tu as un athlète qui est bien préparé, qui se présente sur une course comme ça et qui, malheureusement, connaît une énorme défaillance?
Bah, on est forcément triste pour lui, quoi, parce que on connaît l'investissement qu'il faut pour préparer un marathon. Donc, quand c'est un échec, effectivement, c'est dur, hein, c'est dur. Parce que soit parce que la perf est pas au rendez-vous, ou c'est pareil pour les préparations. Quand l'athlète est blessé, c'est aussi compliqué. Enfin, c'est quand même une discipline très difficile, quoi.
Par exemple, t'es le manager de Johan Durand. Donc, nous, on le suit toutes les semaines. Il avait fait un très bon début d'année avec des bons temps sur 10. Après, il a eu des soucis physiques et puis on était inquiet jusqu'à l'arrivée des championnats d'Europe. Quel est votre contact pendant toute cette période? Vous avez un contact régulier? C'est quoi, une fois par semaine, une fois par mois?
Non, malheureusement, on n'est pas assez présent derrière les athlètes quand ils vont moins bien.
Vu le portefeuille que tu as à gérer, c'est que c'est délicat.
C'est pas forcément bien, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, quoi, parce que beaucoup d'athlètes sont blessés en cours de saison. Hein. C'est pas facile, quoi.
Quand t'es sur la corde comme ça si longtemps, quand t'es athlète de haut niveau, Johan, forcément, il y a des moments où ça casse, quoi.
Ouais, il y a des moments où ça casse. Après, voilà, moi, j'essaie quand même de rester en contact par rapport à mon calendrier, tu vois, parce que là, t'es dans l'adaptation. Donc, à un moment donné, tu vois, en juin, je me blesse au genou et je devais courir. Je voulais peut-être essayer de trouver un semi. Je devais faire la corrida de Langueux, les 10 km de Langueux fin juin et tout. Donc, je dis
même
à Benjamin.
T'appelles René, voilà, dis, je veux faire ça.
Et voilà, je lui dis, bon, Benjamin, je suis blessé pour les 10 km de Langueux. Ouais. Est-ce que tu peux me trouver un semi en juillet? Donc après, lui, il cherche dans son calendrier. Il me propose, il me dit, bah tiens, t'as les 10 km de Toulouse le 5 juillet si tu veux, truc. Et le problème, c'est que voilà, après, bah tu dis oui ou tu dis non en fonction de tes blessures. Mais c'est de l'adaptation. Et eux, il faut qu'ils soient hyper réactifs, parce que voilà, l'athlète se blesse le mercredi, il peut pas courir le dimanche. Mais peut-être qu'il va avoir, la blessure va durer que quelques jours et il faut qu'il retrouve un meeting, par exemple, pour un pistard, un mec, il est blessé, il faut qu'il aille courir 3 jours après, donc il faut aller l'inscrire au meeting de Madrid, ou un truc comme ça. Donc c'est vrai que il faut tout le temps être un peu adaptable, quoi.
Ouais,
il faut être réactif, hein.
Capacité de réactivité.
Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il faut être bien en contact,
C'est vrai qu'on est 7 sur 7, 24 heures sur 24, en relation au moins avec, quand il faut trouver une compétition, on cherche, quoi.
Et ton lien avec la Fédé, parce que tu as un rôle un peu différent, mais tout est lié, parce que la Fédé a tout intérêt à ce que les athlètes performent et soient en place pour les minima. Donc comment vous bossez la main dans la main, en fait?
Non, bien sûr, il n'y a pas de problème avec la fédération, donc ça se passe plutôt bien, quoi. De toute façon, là, on a tous le même intérêt, c'est que les athlètes soient performants, donc que ce soit la fédération ou nous en tant que privé, on fait en sorte que les athlètes soient performants.
Et puis tiens, si je peux me permettre, oui, parce que nombreux ont été ceux qui nous ont demandé sur les réseaux sociaux une sorte de mini-retour sur le marathon de Londres. Moi qui suis coureur amateur, comment s'est passé? Juste pour ceux qui aimeraient le faire un jour, vous signalez que l'ambiance est exceptionnelle, le parcours est exceptionnel. Petit bémol tout de même sur la densité du nombre de coureurs, c'est-à-dire que si vous avez un objectif chronométrique, et que vous choisissez une vague, c'est du déclaratif. Donc malheureusement, vous partez un peu en peloton, en paquet, et vous faites un peu du zigzag sur tout le premier semi-marathon.
Ouais, c'est ce qui t'est arrivé.
Enfin, c'est pas pour ça que j'ai pas atteint mon objectif, mais c'est juste pour que les gens qui
c'est un peu frustrant ça que ça soit sur du déclaratif. Donc c'est-à-dire que des mecs qui peut-être valaient 4 heures se sont mis dans des
stats. C'est-à-dire que moi j'avais déclaré, je voulais faire moins de 3 heures. J'avais déclaré 2h55. Je me suis retrouvé départ rouge parce qu'il y a 3 départs différents à Londres, ce qui est rare sur un majeur d'ailleurs. Hein. 3 départs différents. Moi j'étais sur la ligne rouge et il y avait marqué vague numéro 1. Et quand je suis rentré dans la vague numéro 1, j'ai rencontré certains coureurs français qui nous écoutent d'ailleurs et qui eux visaient 3:15 ou 3:30.
Ouais.
Tu vois, donc on partait en paquet tous ensemble. Donc, finalement, avec des meneurs d'allure de 3h, 3h15, 3h30.
Ouais.
Donc finalement, ça fait une sorte d'embouteillage à l'arrivée. C'est pas ce qui est le plus sympa. Après, ça reste une expérience unique de courir le marathon de Londres, évidemment. Et puis je voulais parler, oui, avec vous du marathon de Chicago. C'est le dernier majeur qui s'est déroulé le week-end dernier. On a frôlé le record du monde féminin, tu le disais, René.
Ouais.
La Kenyane Ruth Chepngetich, deuxième marque magnifique, 2h14, 18 secondes, à 14 secondes du record de Brigitte Kosgei. C'était complètement dingue. Elle est partie très vite, 1h05 au semi. Et alors là, elle l'a payé sur le deuxième. Là, elle est partie comme une fusée et malheureusement, elle a fait un positive split terrible, quoi, René. C'était fou, quoi.
Ouais, mais elle court toujours comme ça. Elle court pas vraiment au-dessus. Parce que je crois qu'elle est passée elle a dû passer un truc comme moins de 16 minutes aussi aux 5 km. Donc c'était.
Les personnes la coachent et lui dit va un peu moins vite, non?
Non, mais moi je la connais pour l'avoir invitée déjà sur deux événements. Et c'est vrai qu'elle est
elle court au feeling, quoi.
Oh, c'est ça, à part.
15-11, je crois.
Ouais, c'était un truc.
15-11 au 5
sur des allures complètement.
Parce que tu te dis si elle part un peu plus doucement.
Ah clairement, le record est pas loin. Parce que quand on sait que, généralement, comme je le dis ici dans le podcast, un marathon, ça doit quand même être assez linéaire et essayer d'être le plus régulier possible ou le negative split. Là, passer une 5 derrière, elle fait une 9. Donc, si elle part peut-être 30 secondes moins vite au semi ou 45 secondes, peut-être que le record du monde est pas loin.
Ouais, donc c'est dommage pour elle. Après, elle gagne quand même le marathon de Chicago, qui est une référence dans une carrière.
Mais passer si proche du record du monde, c'est dommage.
Ça, c'est sûr. Chez les hommes, autre victoire kényane, Benson Kipruto, 2h04 et 24 secondes devant un Éthiopien, Seifu Tura, et puis le Kényan, John Corrier. Pour résumer, les gars, René et Johan, 3 marathons majeurs en 3 semaines, Kenyan. 3 victoires kényanes. Une densité exceptionnelle. On le dit régulièrement, on a fait un épisode spécial sur le Kenya, René, avec ses façons de s'entraîner et puis le potentiel des coureurs là-bas. Mais c'est fou comme ce pays domine cette discipline, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Ouais, enfin, Johan, tu as déjà été au Kenya à t'entraîner.
Ouais.
Donc, c'est des groupes de 100 coureurs qui font des séances ensemble, qui font des longues sorties ensemble. Enfin, il y a de quoi faire là-bas. Hein.
C'est la Mecque de la course à pied. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'arrivée de l'argent un peu sur la route avec les marques qui investissent beaucoup dans le running, hein, plus que sur la piste aujourd'hui. Et du coup, à entraîner tous ces athlètes aujourd'hui. Avant, sur marathon, on attendait d'avoir 27, 28 ans pour monter sur la route. Aujourd'hui, à 22 ans, les mecs, ils arrivent. Ils n'ont pas de passif de coureur de 5000 ou de 10000. Ils montent sur marathon direct et ils s'essayent sur la distance parce que c'est là où il y a l'argent. Et eux, ils courent aussi pour le plaisir, mais surtout pour essayer de s'en sortir. Et c'est pour ça qu'ils montent sur la route, quoi.
C'est le rôle d'un manager aussi de les dispatcher comme ça sur les différentes courses et de permettre à tes coureurs de gagner à différents endroits. Parce que j'imagine, René, qui a un respect énorme envers Eliud Kipchoge, qui est une légende vivante, qui est double champion olympique, qui est recordman du monde. Donc forcément, lorsqu'on se dit on part avec lui, on l'attaque pas et puis finalement on laisse lui gérer sa course. J'imagine que c'est comme ça que ça se passe.
Je pense qu'il est tellement au-dessus du lot que je sais.
Ouais, quoi qu'il arrive, il se fait fort, je pense qu'il y a un tel respect
mais
aussi.
Peut-être que certains osent pas, hein.
Ouais.
Peut-être, hein.
C'est peut-être dur à gérer d'un point de vue managérial de choisir comme ça et d'en envoyer certains à certains endroits et d'autres.
Après, il y a beaucoup de courses, mais il y a plus de coureurs que de courses. Donc, effectivement, des fois, c'est compliqué de rentrer sur certaines courses. Hein. Donc, à Berlin, ils n'invitent pas tant que ça, comme ils ont Kipchoge. Ils n'invitent pas des.
Ils n'ont aucun intérêt à inviter. C'est-à-dire que c'est Kipchoge qui choisit ses lièvres, par exemple?
C'est son agent,
ouais.
C'est son agent qui choisit.
En général, il choisit déjà des partenaires d'entraînement et après, effectivement, s'il n'y en a pas assez. Il faut savoir quand même que sur l'élève de Kipchoge à Berlin, il y en a deux qui battent leur record sur semi-marathon quand même. Donc, il passe en moins d'une heure, quoi. Oui. C'est ce qui est absolument extraordinaire.
Et d'ailleurs,
quoi.
Rappelez qu'il est tout seul dès le 25e.
Ouais, mais déjà, que les lièvres, qu'il y ait un lièvre qui ait pu l'emmener jusqu'au 25e, c'est extraordinaire.
Bien sûr.
59-56 au semi-marathon, quoi. Passage, c'était fou.
Alors, René, on le disait, René Hauguin qui est avec nous aujourd'hui, agent de nombreux stars de l'athlétisme français, notamment Johan Durand, responsable du plateau élite du marathon de Paris. Je veux t'entendre sur la densité française en vue de Paris 2024 sur cette distance du marathon, notamment chez les hommes. Hein, on le disait, faire des pronostics, c'est très dur parce qu'ils sont 8 ou 9 à être très bons et à se tirer la bourre alors que les minima vont s'ouvrir en 2023. J'imagine que toi, ça te ravit de voir autant de talents dans cette équipe de France en vue des Jeux, quoi.
Ouais, absolument. Mais bon, là, effectivement, réussir à se qualifier aux Jeux, ça va être intéressant, quoi. Et une grosse lutte. Après, on attend de connaître le minima. La fédération
vous
devrait
pas
bientôt.
Pour pas, Johan, non,
non, non, ouais. ça va venir assez rapidement. Et surtout savoir à partir de quand
la fenêtre,
effectivement, pour se qualifier. Est-ce que ça va être début 2023, la décision va être prise assez rapidement aussi, mais bon, ce serait intéressant d'ouvrir assez tôt quand même la qualification pour les Jeux, quoi.
Bah, ça permet d'en faire plus. Voilà. Plus tu ouvres tôt, plus on a de chances, plus la fenêtre est grande.
Tu peux avoir un rattrapage si tu te loupes le jour J.
Voilà,
quoi.
C'est ça.
Ouais,
si tu passes à côté.
Ouais. Même si celui qui arrive à se qualifier au mois d'avril, il n'aura plus grand-chose pour se préparer pour ce marathon complètement dingue au mois d'août.
C'est la difficulté, ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui, admettons, fasse un gros chrono en avril 2024, il faut que 4 mois après, il ait récupéré de son gros marathon et...
Voilà.
Après, on ne connaît pas non plus
la date
limite.
Et on ne connaît pas la date limite, là, on parle d'avril 2024, mais ça sera peut-être plus tôt.
Voilà. Et puis René, on l'a dit, tu composes le plateau élite sur les marathons de Paris depuis 20 ans. Oui, tu cherches la performance, oui, tu cherches à faire découvrir des coureurs africains comme ça qui peuvent se révéler ensuite. Bekele avait démarré sur marathon à Paris, mais il y a aussi un lien certain avec le sponsor de l'épreuve. Ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte. C'est-à-dire que ASICS a longtemps été l'énorme sponsor du marathon. Moi, je me souviens, 2021, j'étais au marathon, au salon du marathon. Il y avait Durand 4x3 partout dans le salon. Pam, il fait record, évidemment, personnel en 2h09. Là, c'est jackpot, entre guillemets, parce que tu as misé sur le bon cheval. Il était là, il a répondu présent. Et là, tout le monde est content, finalement.
Non, mais ASICS, c'est toujours le partenaire du marathon. Et ils mettent des moyens, effectivement, pour faire venir aussi des athlètes ASICS. Julien Vanders, bon, ça n'a pas marché, mais il a fait son premier marathon cette année à Paris. Mais bon, voilà, ils font en sorte de faire venir quand même aussi leurs top athlètes.
Ok, les gars, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la séance.
RMC,
la séance.
Alors, Maître Yodu, c'est pas de l'entraînement pur et dur aujourd'hui, hein, mais c'est plus de la programmation, l'importance de bien choisir sa course. Ça parle aux pros comme toi, ça parle également aux amateurs qui veulent cibler 2-3 objectifs sur une saison. Il faut choisir le bon parcours, le bon moment pour le réaliser. Parlons des pros pour démarrer avec ton éclairage, Johan. Comment tu choisis une course lorsque tu planifies une saison? À quel moment tu appelles René Hauguin et tu commences à l'harceler en lui disant j'ai envie d'aller là ou là? Comment ça se passe?
À quelle heure tu lui envoies un message WhatsApp?
C'est ça.
Mais René a cette faculté, c'est qu'il dort peu, donc tu peux lui écrire à 3 ou 4 heures du mat, il est souvent sur son téléphone.
René, j'ai vu un doc, je veux aller à Berlin.
C'est
s'il te plaît. Merci.
Non, la première chose à faire déjà, c'est de définir son gros objectif ou ses deux gros objectifs dans la saison. C'est-à-dire qu'on le sait, les pics de forme, c'est pas des trucs qui durent 12 mois sur 12. Donc il vous faut définir vos deux objectifs de l'année, un ou deux, peu importe. Et après, en fonction de ça, par exemple, moi, ça va être le marathon en avril et un marathon en décembre, admettons, pour 2023. Et en fonction de ça, une fois que tu as ton gros objectif, là, tu planifies des courses de préparation, des courses... tu cherches des 10 km si tu veux travailler la vitesse, des semis si tu veux préparer un marathon ou des choses comme ça. Et c'est vraiment ton premier objectif numéro un qui doit guider après le choix des courses, le choix des autres courses. Et après, ça dépend ce que tu cherches. Des fois, par exemple, trois semaines avant le marathon de Paris, une année, j'ai dit voilà, je cherche un semi. Je suis allé au semi de La Rochelle, je l'ai couru à Allure Marathon. Je cherchais pas un semi plat, je cherchais pas un semi. Je savais qu'il y avait du vent, que c'était pas plat, qu'il y avait pas de densité. Mais plutôt que faire une sortie tout seul, j'ai dit allez, bah bingo, je pars faire un semi comme ça.
La démarche, c'est toujours l'athlète qui dit au manager. J'aimerais faire ça aussi, ou c'est le manager qui te conseille aussi, qui t'oriente et qui te dit moi je connais bien cette course, il vaut mieux aller là, il vaut mieux faire ça.
C'est souvent l'athlète, ça vient de l'athlète et de l'entraîneur. Ouais, c'est vraiment l'athlète et l'entraîneur qui discutent, qui définissent un objectif, qui définissent des compétitions à faire, et après on demande au manager si c'est possible, si je peux rentrer là-bas, et sinon qu'est-ce qu'il a à proposer, et après le manager.
Ouais, c'est ça, c'est absolument, c'est les athlètes ou leurs entraîneurs qui décident du programme, voilà, du programme. Nous, on est là pour leur faciliter la tâche. Après, il faut toujours avoir des plans B si effectivement l'athlète ne peut pas rentrer sur un marathon qu'il souhaite, ou voilà, c'est.
Parce que toi, on rappelle, tu gères toute la logistique. Hein. C'est pas seulement le dossard, c'est l'hôtel, c'est le transport, c'est la gestion de tout ça.
Non. Sur la partie, c'est l'organisateur qui invite l'athlète. Nous, la seule chose qu'on fait, c'est prendre le billet d'avion pour l'envoyer.
Ah, c'est l'organisation qui vous met dans des chaussons après.
En fait, tous les organisateurs ont des hôtels. Et invite les athlètes, ils sont pris en charge.
Après, vous êtes regroupés, quoi. Voilà. Autre question, parce que moi j'ai établi des critères de sélection, je pense que c'est ça à peu près, Johan, c'est tu choisis en fonction du parcours.
Exactement. Ouais.
La densité aussi, peut-être
c'est
à ton niveau.
Ouais. C'est ça, à mon niveau, c'est ça, ouais. C'est le parcours qui va guider mes choix, la densité d'athlètes sur mes chronos, et après, où est-ce que je suis dans la saison, comment c'est placé, est-ce que.
La logistique aussi, le décalage horaire qui s'y
passe. J'y prête attention parce que j'ai du mal. Je me suis rendu compte que aller courir en Asie, tu vois, c'est un truc même pas j'y ai pensé. Alors qu'il y a des marathons merveilleux au Japon avec des densités de ouf et tout. Mais la seule fois où je suis allé courir en Chine, j'ai ramassé, il faisait chaud, il faisait lourd, j'ai pas supporté. Je suis allé courir au Brésil, c'était pareil, c'était insupportable. Dès que j'ai pas mon petit 20 degrés avec 0% d'humidité. C'est compliqué, donc moi je l'exclus, je reste en Europe, quoi.
Ok. René, c'est quoi les conseils principaux que tu donnes aux athlètes lorsqu'ils sont en train de choisir leur course alors?
Effectivement, le niveau de l'athlète avec le niveau de la course, quoi. C'est là où il y a la densité, il y a des courses, on sait, à Berlin il y a plusieurs groupes pour des coureurs, c'est plus facile d'aller sur ce type de course. Après, en général, les athlètes savent déjà où ils veulent aller. Hein.
Ouais, parce que oui, c'est important de le rappeler, mais souvent sur un énorme marathon, il y a ceux qui jouent la gagne, donc les Kenyans qui partent devant, etc. Après, il y a d'autres lignes qui se créent chez les pros, c'est qu'il y a une deuxième ligne d'allure où tu peux te sentir plus à l'aise et où tu vas partir avec un deuxième groupe plutôt que d'aller t'exploser avec les leaders qui jouent la gagne.
Exactement, ouais. C'est ça qui est important, c'est la densité sur nos chronos à nous perso. Voilà. Et moi, je me rappelle des fois sur piste, par exemple, j'ai fait un meilleur chrono sur un meeting sur mon record sur 5000, je l'ai fait au meeting de Villeneuve-d'Ascq à Lille sur un meeting européen, et à contrario dans une course qui se gagnait sur mes chronos à moi aux alentours des 13-15 plutôt qu'un meeting au Stade de France à Paris où la course était gagnée en 12-45 et où au bout de 1000 mètres t'es 200 mètres derrière Bekele, et ça c'est à prendre en compte aussi. Des fois il faut savoir pas se griller les ailes et dire le meeting du Stade de France ou le meeting de Monaco ça va beaucoup trop vite, vaut mieux courir un meeting national et jouer la gagne devant, être deux ou troisième. Et ça c'est pareil pour tout le monde à tout niveau.
Juste une question, et je vais pas te mettre dans l'embarras, mais est-ce que parfois certaines marques, ton sponsor peut t'inciter à aller quelque part? J'ai le souvenir moi par exemple du 10 km de Paris sponsorisé par Adidas, et il y avait évidemment tous les athlètes Adidas qui étaient là. Est-ce que c'est un conseil, on te demande d'y être, comment ça se passe?
Ils peuvent nous demander d'y être, après ils sont
assez ouverts,
ouverts sur la discussion. D'accord. C'est comme avec René, c'est-à-dire que l'athlète il reste quand même au centre du projet, et si jamais ça tombe mal, tu leur dis non je peux pas,
aucun intérêt pour moi, je veux au carton,
c'est ça. Par exemple pour ASICS organiser un 10 km à Malaga, moi j'étais en phase de reprise, j'étais blessé, j'ai dit je pourrais pas courir truc, mais par contre je peux faire Lièvre pour les filles. Je me suis retrouvé à faire Lièvre sur 15-50 au 5000, donc c'était une petite sortie d'entraînement pour moi. Ça a aidé tout le monde, ça a aidé les féminines, mais les marques non, elles sont aujourd'hui comme René, tout le monde tire dans le même sens.
C'est important, René, que l'athlète soit
mais elles recommandent des fois, tu vois, quand effectivement souvent quand l'équipementier est partenaire d'un, enfin est sponsor d'une course, il recommande, il oblige pas, mais il recommande aux athlètes de participer à cette course, quoi.
Et toi qui connais toutes les distances, toutes les courses du monde, René, les conseils pareil pour choisir une course pour un coureur amateur, les critères de sélection, c'est quoi? C'est le prestige,
la beauté du parcours, je pense, la beauté. Hein.
Ouais, ouais, le prestige et la beauté du parcours. Hein, ouais. C'est là-dessus, bon, Paris est bien placé pour ça, parce qu'on a quand même un magnifique marathon à Paris. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Quand même, c'est un des plus beaux marathons au monde. Hein.
Ouais, puis les conditions à Paris, ouais, j'ai l'impression, ouais, météo chaque année, c'est quand même un régal. Hein.
Ouais,
c'est... On a de la chance. Hein.
Absolument, ouais.
Et puis c'est moins dur qu'ailleurs pour avoir un dossard.
Exactement.
Et ouais, c'est vrai.
Ouais.
Ouais. Non.
Ça dépend.
C'est,
si.
Ah non, mais c'est cher. Hein. C'est, un dossard, ouais, est cher, mais bon, il faut penser...
Non, beaucoup moins cher qu'à New York,
voilà,
ou
c'est ça,
d'autres marathons. Hein.
Bien sûr. Et ouais, c'est ça, on est d'accord. Et puis pour le problème de marathon comme New York ou comme d'autres majeurs, c'est qu'ensuite il faut passer par un tour opérateur et là tout de suite les prix s'envolent, ouais, c'est tout, ouais, de suite 2000 euros pour passer 4 jours à New York et pouvoir courir le marathon. Messieurs, on continue tout de suite notre opération Nice-Cannes et on accueille notre championne Élodie qui est en direct avec nous. Salut Élodie.
Salut. Oui, bonjour tout le monde.
Comment ça va Élodie alors?
Ben ça va très bien.
Alors oui, je vais rappeler à René qui tu es, parce que peut-être qu'il va vouloir t'engager, on sait jamais.
Bah oui, on sait jamais.
Voilà, en fait, René, on est partenaire avec RMC du marathon Nice-Cannes, magnifique épreuve le 30 octobre, donc 99% bord de mer, évidemment, entre Nice et Cannes. Et on a décidé avec Johan d'encadrer 4 coureurs qui ont 4 objectifs différents. Et Élodie est avec nous, Élodie qui a l'objectif un peu ambitieux au départ, mais on va voir si c'est encore le cas de passer sous les 3h30 au marathon. Alors, tu en es où comme ça à quelques jours de l'objectif? Est-ce que tu te sens capable de réaliser l'objectif, Élodie, alors?
Bah, pour l'instant, j'arrive à réaliser toutes les séances dans les temps, voire mieux. Donc, pour l'instant, ça tient.
Pour l'instant, c'est bon signe. Parce que là, c'est t'es quand même en fin de préparation. Là, t'es dans le money time. C'est la dernière semaine de gros travail.
Maître Durand, on me souffle dans l'oreille qu'elle vient de s'envoyer un 5000, 2000, 1000. C'est ça,
ouais,
Élodie?
Voilà, c'est ça.
Comment ça s'est passé alors?
En combien alors?
J'ai fait. Alors, à la base, je vais faire 22,15, 8,40 et 4,15.
Oui.
Et je fais 21,58, 8,39 et aux alentours de 4,07 pour le dernier 1000.
Magnifique.
Bah, c'est beau.
Ouais, t'es largement en avance. Tu as visé 3 heures.
Non, mais je suis contente, c'est vrai que c'est surprenant quand même.
On est parti sur une prépa de 10 semaines, comment tu te sens mentalement? Est-ce que tu sens de la fatigue s'installer ou est-ce que tu es toujours aussi motivée avant ce marathon alors?
Ben, moi je suis toujours super motivée, mais j'avoue que là je suis un petit peu fatiguée, c'est pour ça que j'appréhendais la séance d'aujourd'hui. En plus 5000 en tour de piste, c'est compliqué.
Ah, c'est long. Hein.
C'est long quoi.
Remercier Olivier Gaillard.
Ça tient quand même quoi. Ouais.
Ouais, non, mais c'est bien passé. Et puis là, j'imagine, Élodie, que le travail va diminuer. Là, on va rentrer dans les 2 dernières semaines. Ça va être plus cool la semaine prochaine.
Ah bah carrément, il y a 10 fois 800 allure 4,22 kilos. Bon, du coup, ça ne me fait pas spécialement peur, on va dire. 40 minutes de footing.
Ce week-end, il y a encore 3 fois 20 minutes.
Ouais, mais ça va, on allure 4,58.
Non, mais là, voilà, c'est bien, c'est de l'allure marathon. Maintenant,
ouais,
il faut déjà
cool,
penser à commencer à récupérer. Voilà, on va rentrer dans les 15 derniers jours et là, il faut plus chercher à en faire. Vaut mieux en faire pas assez que trop à partir de maintenant.
Alors, Élodie, tu es au téléphone avec nous, tu ne vois pas l'image, mais René Auguin acquiesce. Hein. Donc, c'est bon, il est d'accord avec tout ce qu'on dit.
Okay. 2h23, René.
Ouais, c'est ça.
C'est un marathon que je connais bien parce que j'y suis tous les ans, parce que j'aide à faire le plateau.
Il est de toutes les courses.
Par contre, c'est un marathon, le deuxième semi-marathon est particulièrement difficile. Hein. Mais par contre, il est magnifique. Hein, c'est un marathon, franchement, on en prend plein les yeux. Là. Voilà. Quand on arrive aussi sur Cannes, c'est agréable.
Élodie, n'écoute pas ce que tu viens d'entendre, pars à fond.
Au 30e, il y a une petite côte, là, je crois, si je ne me trompe pas.
C'est... Au 27e, je crois.
Parcours. Tu sais, René, qu'on a fait un épisode spécial pour te faire découvrir le parcours avec un spécialiste, quand même, le maire de Cannes qui était avec nous. David Lisnard.
Qui le court tous les ans.
Exactement.
Il nous l'a dit.
Et qui est fan de Johan Durand, voilà, de qualité. Et du coup, voilà.
Et Christian Estrosi aussi le court tous les ans. Si
c'est vrai.
Et maire de Nice, maire de Cannes, court le marathon.
Comme ça, pas de jaloux.
Voilà.
Ça. Élodie, est-ce que tu as une question avant de te laisser tranquille pour ton coach Yodu? Profites-en, c'est le moment là.
Ouais, non, c'est juste, je voulais savoir, la veille du marathon,
on fait
un petit échauffement, on fait quelque chose ou on...
Oui, bah alors le mieux c'est de le faire la veille du marathon. Toi, tu habites où?
À Rennes.
Rennes. Moi, j'habite à Rennes. Donc,
tu fais quoi comme voyage?
je prends le train.
D'accord. Et tu le fais la veille, ça?
Ouais.
Et tu arrives à quelle heure sur Nice?
Rennes-Nice en train.
Normalement, 18h, je crois, à peu près.
Ah ouais, donc t'auras peut-être pas le temps.
Ah, tu peux le faire l'avant-veille, j'imagine.
Ouais, si jamais t'as un gros voyage comme ça, peut-être le mieux c'est de le faire l'avant-veille parce que, derrière, si t'arrives à 18h, le temps d'aller à l'appart, de poser ses affaires, de récupérer le dossard ou autre,
ça
va être compliqué de le faire. Donc, et puis la fatigue accumulée lors du voyage, c'est pas top peut-être d'aller courir derrière. Donc fais-le l'avant-veille et la veille tu fais repos. Essaye de marcher un peu juste après le train pour te dégourdir les jambes si tu restes assis pendant 6-7 heures. Tu peux mettre des bas de contention ou des choses comme ça.
Conseil de Durand, lorsque tu voyages la veille, hydrate-toi bien.
Ouais, parce qu'on s'hydrate pas assez quand on prend les transports. On n'a pas tendance à avoir sa bouteille d'eau. Le pire, c'est l'avion parce qu'ils vous font jeter l'eau lors des contrôles douaniers. Donc, bien s'hydrater. Et puis trottiner la veille plutôt et faire repos le jour de la course et pas se prendre la tête. Ouais.
Voilà.
Et quand on a un voyage comme ça, galère.
J'ai une autre petite question. Juste avant le marathon, donc le jour J, on fait un petit quelque chose?
Ah oui.
Tu fais 10 fois 1000 à fond.
Voilà, pour te mettre bien échauffé. Ouais. Non, tu fais un échauffement classique. Alors après, la difficulté des marathons quand on est amateur, c'est d'arriver dans le sas de départ relativement tôt. Là, je sais pas exactement combien de temps ils vont vous demander d'être dans le sas. Mais
Il
n'y
a pas
tu
René
peux...
Auguin pour te mettre juste devant. 5 minutes avant.
Ah, René, lui, il me prend ma veille. Sais que j'enlève mon coupe-vent 2 minutes avant ligne de départ et je le donne à René qui est sur la moto. Ouais. Après, il le donne à Benjamin et après, ils m'attendent à l'arrivée.
Regarde-le, celui-là, incroyable.
Ils font tout pour nous. Mais non, du coup, la difficulté pour le coureur, c'est ça, c'est de rester peut-être une demi-heure statique dans un sas de départ, et c'est là où tu dois essayer de rester active un maximum. Alors essayer de trottiner peut-être un petit. Voilà, tu vas faire 15-20 minutes avant de footing, et puis après dans le sas, tu t'étires, tu fais des étirements actifs, t'essayes si t'as la place de faire quelques gammes, montée de genoux, talons fesses et tout ça. Et puis après, le plus important, c'est de se servir des premiers kilomètres pour pas partir trop vite et pour justement terminer un peu son échauffement et se servir de ces 3, 4, 5 premiers kilos pour c'est parti, je me lance, je finis mon échauffement.
Il y aura des meneurs d'allure, donc il faut suivre l'allure que tu t'es fixée.
3:30, elle aura un meneur.
12 à l'heure.
Okay.
Elodie, bon courage à toi. Et puis de toute façon, tu seras avec nous. On te retrouvera d'ici le début de ce marathon. Et d'ailleurs,
bien sûr,
à tout le monde qu'on aura un grand épisode débrief de ce marathon pour vous tous. Avec un épisode qui sera consacré au post-marathon, le marathon blues, la récupération, tout ça.
Et c'est vrai, le marathon blues,
toute cette période horrible.
C'est quelque chose.
Ne pense pas à ça, Elodie. Tu verras, t'as le temps de rester focus sur ton objectif. Merci, Elodie. À bientôt. Et nous, on passe au bon plan d'Ossard.
RMC,
le bon plan d'Ossard.
Et là, attention, évidemment, René connaît cette épreuve. C'est l'une des plus belles épreuves de trail en France. Le festival des Templiers tous les ans. Et dernier week-end d'octobre dans l'Aveyron, en Occitanie. Et on accueille un grand nom de la course à pied. Et oui, une consoeur, Odile, qui est avec nous. Odile Baudrier, qui est la fondatrice de ce festival. Bonjour, Odile.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Bienvenue, Odile. On est ravis de vous accueillir. C'est donc l'organisatrice de ce grand événement. Je rappelle également que vous êtes fervente combattante de la lutte donc contre le dopage. C'est important.
Exactement.
Parce que vous y consacrez une longue partie de votre vie également. Parlons de votre événement, parce que c'est magnifique. Vous pouvez aller chercher sur les réseaux sociaux les différentes images. C'est sublime. On en prend plein les yeux, Odile. Là, c'est toute cette, vallée, l'Aveyron. Il y en a pour tous les goûts, mais surtout, on en prend plein les yeux, Odile.
Oui, on en prend plein les yeux. On vit dans une zone qui est fantastique. Donc, les Grands Causses, la vallée du Tarn, le Causse du Larzac, bien connu également, donc qui offre des beaux paysages, des zones très isolées, très sauvages, et donc qui chaque année attire beaucoup de monde de toute la France et de l'étranger.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler les formats proposés justement sur ce grand week-end pour trailer?
En fait, on évolue sur un format sur 3 jours de course. Avec Gilles Bertrand, donc mon mari est créateur de l'événement, on a voulu créer un événement qui soit accessible au plus grand nombre. Donc au fil des années, on a ajouté des distances pour coller un petit peu aux attentes des coureurs et confirmés et néophytes, et coureuses également, puisqu'on a un gros peloton qui est féminin. Et donc on a des distances maintenant qui vont de 9 km à 102. Et donc ça nous permet d'offrir une palette chaque jour différente et avec des distances pour tous et toutes.
avec ces images magnifiques de départ la nuit, hein, avec toutes les, évidemment, toutes les frontales qui sont allumées, le fumigène qui est craqué comme ça, la lumière rouge.
Le froid.
Voilà, le froid, et puis ce départ sublime, c'est tout ce qui fait le charme de votre course également, Odile.
Ah ben, le départ du Grand Trail des Templiers, c'est vrai que c'est un moment très intense parce qu'il réunit 2500 coureurs. Et c'est vrai que c'est un moment qui est attendu par les coureurs et les organisateurs aussi depuis plusieurs mois. Donc tout le monde met son entraînement en ordre. Les organisateurs de leur côté œuvrent pour que tout soit prêt. Donc c'est vrai que le moment où tout ça, ça s'unit avec la musique qui va bien, avec les fumigènes, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions parce que ça représente pour tout le monde une petite consécration de son année. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un moment d'union en fait entre tout le monde. Et quand on a réussi ça, c'est vrai qu'on on verse souvent notre petite larme. C'est le moment aussi pour Phil Bertrand d'adresser un discours
magnifique très, discours,
très, voilà, passionné au trailer qu'il adore. Et donc c'est vrai que c'est des moments de vie qui sont intenses et qu'on traverse maintenant depuis bientôt 27 ans.
Odile, rassurez-nous, la météo est plutôt clémente en règle générale.
On a eu de tout, en fait, on a eu de tout, et c'est vrai qu'on a eu des années, effectivement, avec un petit peu de neige sur les côtes, et on a eu des éditions avec beaucoup de pluie aussi, on a eu une édition annulée pour des problèmes d'orage. Ah. Après, voilà, je pense que là, on est sur une météo actuellement qui est très clémente et plutôt chaude, même sur Millau et Sud Aveyron, donc à voir d'ici bientôt 15 jours si ce sera la même chose. Comme je le dis souvent, c'est la seule chose que nous, organisateurs, on ne maîtrise pas. Donc, on prend ce qui vient et les coureurs, c'est pareil. Je pense que c'est là, justement, où la nature reprend un peu ses droits. On peut faire des listes tant qu'on veut, des tableurs Excel, des convocations, des missions. À un moment donné, voilà, l'élément naturel, il nous dépasse et il faut l'accepter. Je pense que c'est la vie qui est comme ça.
Je vous remercie, Odile. Vous m'excusez, hein, je ne peux pas vous envoyer durant cette année. Il est encore un peu blessé. Il a un objectif.
Ah, peut-être le 9, peut-être le 9 km.
Peut-être. Pourquoi pas. Il faut qu'il achète des chaussures.
Non, mais c'est vrai
trail.
Que le Trail des Templiers, c'est la référence.
Je sais que c'est une course que tu feras après ta carrière sur route.
C'est sûr.
Ouais, ça, c'est certain.
Alors, c'est une épreuve sur laquelle on a justement compté cette année. On a quand même déjà accueilli une vingtaine d'athlètes hommes et femmes qui ont été en équipe de France de formats différents d'ailleurs, du semi, du marathon, du trail, il y a eu un petit peu de tout. On a eu par exemple championne de France de marathon qui est venue disputer la Templière, l'épreuve réservée aux femmes. Donc en fait on a quand même un melting pot aussi avec quelques athlètes d'élite qui veulent s'essayer au trail, et comme justement on a des distances accessibles, voilà, ils font ça parfois en groupe, donc c'est marrant aussi de relier ce qui a traversé notre vie pendant beaucoup d'années avec Gilles Bertrand et le Grand Trail des Templiers.
Vous savez, Odile, qu'on a reçu beaucoup de personnalités du monde du trail qui nous ont vendu votre événement, notamment Sylvain Cusseau, qui était venu au mois de juin, qui nous avait dit c'est vraiment une course fabuleuse. Voilà, c'est vrai que c'est une course reconnue. Et d'ailleurs, je vous remercie puisque vous nous offrez 10 dossards. Voilà, 10 dossards à gagner pour le format que vous voulez. C'est vrai que ça arrive un peu tard, on s'en excuse, mais vous pouvez choisir le format qui vous convient. Et on remercie Odile une nouvelle fois. Et d'ailleurs, Odile, je vous lance une invitation. On consacrera également un numéro à la lutte antidopage, évidemment, dans le milieu de la course à pied, parce que c'est un combat qui vous est cher.
Il y a des choses à dire en ce moment.
Ouais,
en
c'est
plus.
Ça. Hein.
Oui, il y a des choses à dire.
Il y a des Kenyans qui tombent à...
Voilà.
Ah oui, là, on en est à 22 cette année. Hein. C'est terrible. Hein.
Voilà.
Terrible.
Ouais. S'ils peuvent tomber avant 2024 pour que Durand fasse une médaille, ça nous arrange. Voilà.
C'est sûr. Bon, merci beaucoup.
Merci
de m'avoir
à vous, Odile.
Pris à l'antenne, hein.
Merci beaucoup. Et bonne préparation, hein, puisque c'est beaucoup de travail, évidemment.
Oui.
Et on rappelle donc le Festival des Templiers qui sera à retrouver le dernier week-end d'octobre, magnifique, en Aveyron. On remercie René Auguin, hein, évidemment, manager de Star.
Merci.
On reste en contact, hein, René. Hein.
Tu veux ton dossard, toi?
Alors, je veux pas mon dossard, mais je veux tous les champions dans RMC Running.
Ah, voilà. Bah oui. Ah, bah là, regarde son téléphone,
voilà,
tu choisis.
On va rester en contact. Déjà, je me suis accaparé Durand, comme ça, crac, je l'ai gardé avec moi. Et puis, voilà. Non, mais je vous remercie, René. C'était passionnant de découvrir un peu cette facette du métier, quand même, parce qu'on en parle peu. L'organisation des marathons, le bilan des grands marathons qui viennent de s'achever, puisque c'est toujours un moment fort. Et puis, vous reviendrez quand vous voulez, avec Benjamin, peut-être la prochaine fois.
Ouais, il est provincial, mais il monte aussi à Paris. Parfois.
Il faut le sortir du Nord.
Tous les deux voyager, ça vous fait pas peur.
Et alors là, leur demande pas combien de jours ils passent en déplacement.
Là, il y a une carte premium, j'imagine, pour l'avion. Bah, j'espère. Là, ça va. Merci beaucoup, René Huguin, d'avoir été avec nous. Et la tradition de RMC Running, c'est de terminer par une musique. Ah. Et oui, qu'on rajoute à la playlist RMC Running. On a choisi. Empire State of Mind, le prochain majeur, le 6 novembre, le marathon de New York, qu'on va suivre avec beaucoup de passion. Tu valides, évidemment.
Bien évidemment.
Ça, c'est ta cam, mon petit odieux. Allez, je te remercie, toi aussi, Johan. On se retrouve la semaine prochaine. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.